Chapitre 5. Les toilettes de Marguerite. C'était une belle joueuse, cette Marguerite Sadoulas, une vraie Marguerite de Bourgogne. Vous la verrez au théâtre de la Porte Saint-Martin quelques jours. Elle n'enlevait aucune carte à ses adversaires. À quoi bon? Elle avait ses cartes à elle, toutes faites. Loin d'entraver le tournoi, elle ouvrait les barrières toutes grandes. Voyez quel délicieux paradis elle avait donné à Roland et Nita pour leur première entrevue d'amour, et comme aussi elle avait aplani les obstacles sur leur route, et comme aussi elle avait éloigné de leur tête-à-tête jusqu'au bourdonnement des voisins importuns. Sous le masque, on trouve aisément la solitude au milieu de la foule. Marguerite savait bien cela, elle qui avait porté tant de masques. C'est égal. Dans sa complaisante sollicitude, elle avait sablé de faim les moindres rugosités de la route, et sur le sable volontiers eût-elle ajouté un lit de feuilles de rose. Ah, c'est qu'il ne lui fallait point aujourd'hui des amoureux à la glace. Elle avait fait dessein de chauffer au rouge cette nuit la tiède atmosphère de cet honnête faubourg Saint-Germain. Elle avait besoin pour son drame de deux jeunes premiers nerveux, alertes, dispos, ardents. Tout ce qui pouvait allumer leur sang et leur sens lui était bon. Qu'est une bonne pièce mal interprétée? Une déroute? La pièce de Marguerite était bonne, quoique hardie, au-delà des limites permises de la témérité. Pour jouer cela, il fallait du vitriol dans les veines de ses marionnettes. Le lecteur a deviné depuis longtemps que le buridan de la princesse d'Epstein était Roland de Clair, monsieur Cœur en personne. Avant de suivre Roland et Nita dans ce sanctuaire, préparé par Marguerite pour la fête pure et charmante de leurs jeunes amours, il nous faut accompagner encore pour un moment cette Marguerite qui avait pris sur ses belles épaules le poids d'un monde à soulever. Nous l'avons vue quittant le bal, où elle l'avait mis en scène, dans toute la rigueur du terme, le prologue de son effrontée comédie. Dans ce prologue, elle avait dit son dernier mot. Le reste du premier tableau pouvait et devait se jouer sans elle. Il faut les entr'actes pour reprendre haleine, souffler et changer de costume. Dans l'escalier qu'elle montait à la hâte pour gagner son appartement, le vicomte Annibal Guillaujat la suivait, essoufflé. Sa première et sa seconde femme de chambre attendaient à la porte de son boudoir. Elle refusa leur service, disant « Ce dont j'ai besoin, c'est une minute de repos, j'étouffe. » Elle l'entra et poussa le verrou sans bruit derrière elle. Annibal l'accompagnait toujours. « Du repos, cette nuit, quelle moquerie! Vous allez voir comme Marguerite se reposait. » Monsieur le vicomte, dit-elle en ouvrant à deux battants l'armoire laquée dont elle avait emporté la clé, dans votre beau pays, on prétend que les hommes ont très souvent des talents de femme. On le prétend, belle dame, répondit Guillaujat qui se mit dans une bergère et s'éventa avec son mouchoir de batiste brodé. J'ai besoin d'une camériste, reprit la comtesse. Annibal eut son sourire d'ivoire et reprit doucement. C'est un autre emploi que j'avais espéré chez vous. La comtesse prenait à pleine main dans son armoire de la gaze, de la soie, des rubans, et disposait tout cela sur ses meubles. Allons, debout, dit-elle. L'autre emploi n'est ni vacant ni donné. Vous avez des qualités, Annibal, mais j'ai peur que vous n'ayez pas cette bravoure un peu brutale. Vous savez, je vous crois doué seulement du courage civil. Je me suis battu en duel cette fois, belle dame, repartit le vicomte sans s'émouvoir autrement, mais il est certain que j'aime mieux regarder la pointe d'une épée que le blanc des yeux de certains hommes. Les yeux de Monsieur Cœur, par exemple? Annibal s'était levé. Il s'inclina, comme il eût dit, c'est vrai, ils ont leur franchise. Et le notaire? Demanda Marguerite en riant. « Ces deux-là se mangeraient à belles dents, » répondit Annibal avec conviction. Marguerite l'appela d'un signe amical et murmura « Vous êtes un Napolitain de beaucoup d'esprit, vicomte. Venez là et faisons ma toilette. Ils se mangeront, si je veux. » Les débris du volcan ravagé couvraient déjà le tapis. Tout ce rouge, toute cette pourpre, toutes ces flammes sanglantes, tombait autour de Marguerite comme feuille morte au mois de novembre. C'était bien une actrice, et ce n'était que cela. Pensez-vous, on l'avait sifflée, cette splendide créature, parce que l'agent de change d'une vulgaire coquine l'avait voulu. Et qui sait si tout ne venait pas de là? 25 louis de sifflet peuvent précipiter une âme en enfer, 25 louis d'agent de change. C'était toujours une actrice, car sous son volcan, elle avait un habit de ville. Les soldats se couchent tout habillés à la veille d'une bataille. Marguerite était préparée et grillée pour n'importe quelle transformation. À la rigueur, elle n'avait qu'un manteau à jeter sur ses épaules pour monter dans une chaise de poste et s'éveiller, fraîche comme une rose, à Bruxelles ou à Turin. En voyant cette robe de dessous, le vicomte Annibal dit « À la bonne heure, la morale est sauvée !» Le regard que lui jeta Marguerite n'était pas exempt d'une certaine nuance de raillerie. « À l'ouvrage, fit aller vite, nous ne sommes pas ici pour causer !» Ma foi, le vicomte Annibal pouvait avoir encore d'autres mérites, mais il est certain que, comme femme de chambre, il valait son prix. Tous les vicomtes, en définitive, ne sauraient pas coiffer une dame aussi nettement que le perruquier du coin. Il faut avoir étudié. Le vicomte Annibal prit d'une main savante cette fameuse perruque que Marguerite avait commandée chez le grand coiffeur de la rue Richelieu le soir de sa première entrevue avec Léon de Malvoie. Il l'examina en connaisseur et la planta d'un temps sur la noire chevelure de la comtesse. La perruque était blonde. « On dirait les cheveux de cette chère petite princesse, » murmura-t-il. « Savez-vous que, dès la pastorelle, l'intimité était complète? Ils s'entrappelaient, mon cousin et ma cousine, à bouche que veux-tu? »« Bah, » fit Marguerite sitôt. Elle ajouta, « Puisque c'est la même nuance, coiffez-moi comme Nita. » Sur l'honneur, Annibal y avait la main. Sait-on ce qu'ils ont fait là-bas avant d'arriver vicomte à Paris? Ils coiffaient bien, ils coiffaient très bien. Marguerite se regarda dans la glace et lui pinça la joue maternellement. Elle était blondée, plus jolie, blonde à ravir. « Au teint maintenant, Lisette, dit-elle, un teint de blonde, un teint de Nita. » Annibal frisa bien un peu sa moustache d'ébène à ce nom de Lisette, mais il prit sur sa toilette la boîte de fard qui avait presque autant de compartiments qu'une boîte à pastel. Nous savons de quelle passion il aimait la peinture. En 2 minutes, avec son pinceau de ouate, il eut brossé sa blonde, délicate comme une rose du Bengale. Fi de ceux qui ne savent pas rendre justice au talent, la comtesse ne lui épargna point les éloges. « Au costume, maintenant, dit-elle, et attention, regardez-moi bien tout cela. » Annibal obéit. Ses yeux errèrent parmi tout ce frais fouillis de couleurs tendres et suaves. Il ne reconnut rien d'abord. « N'avez-vous point vu quelque chose de pareil cette nuit ?» demanda Marguerite à voix basse. « Cette nuit ?» répéta Annibal, qui devint rêveur. Il commença l'œuvre de la toilette sans rien ajouter. C'est à peine si la comtesse eut besoin de le diriger dans son travail. L'opération était à plus de moitié lorsqu'il murmura « Madame, ceci est une dangereuse confidence. »« Ah ah !» fit Marguerite, « vous avez compris, à la fin. »« J'ai compris depuis longtemps, madame. »« Et vous ne disiez rien ?»« Je réfléchissais, » prononça lentement Annibal. « Cela ne mérite-t-il pas réflexion ?» Marguerite se retourna et leurs yeux se choquèrent. « Ah, » fit-elle, « vous réfléchissiez sans ma permission. À quoi ?»« Il n'y a qu'un nom, » répliqua le vicomte, « pour désigner l'homme à qui l'on se confie si profondément, et quand on n'épouse pas cet homme, on le tue. » La comtesse haussa les épaules. Il ne manquait plus à son costume que le manteau de gaze. Sa taille et sa tournure étaient déjà exactement celles de la princesse d'Epstein. « Mon pauvre Annibal, dit-elle, vous ne me croiriez pas si je vous disais « je vous aime ». Vous auriez raison, je ne vous aime pas. Je n'ai jamais aimé personne. Je n'aime personne, je n'aimerai personne. Plus haut, ces nœuds d'azur, je vous prie. Nita les a presque sur l'épaule. Qui vous a dit que vous ne seriez pas mon mari ?» Vous avez inventé encore un duc de Clare cette nuit, un Italien comme moi, le prince Policheni. J'en inventerai d'autres. Disposez les contre-glaces afin que je me voie par derrière. Ah, bien, cette affaire doit se présenter au public sous la forme d'une énigme inextricable. C'est nécessaire. L'écharpe qui tombe de maîtresse descend trop bas. Fixez-la à gauche, près de ma ceinture. Ah, vous êtes-vous piqué, pauvre Hannibal? J'ai besoin, pour en revenir à nos moutons, j'ai besoin d'un imposteur solennellement démasqué. Ce garçon sera l'imposteur démasqué. Le prince Polichinelle, fils d'un ancien piqueur du duc Guillaume, qui par conséquent peut connaître tous les secrets de la maison, ayant abusé. Les yeux d'Hannibal s'ouvrirent tout grands. Et monsieur Coeur, fit-il? Quand vous avez parlé de lui et du notaire, prononça très bas Marguerite, j'ai cru que vous aviez deviné. N'aviez-vous pas deviné? Hannibal disposait les plis du voile. « C'est une machine à la force de 100 chevaux, murmura-t-il, dont les courroies sont des fils d'araignée. J'ai le vertige. Hein, »« Les filets de Vulcain qui prirent le dieu Mars en personne, répondit Marguerite d'un ton léger, étaient, dit-on, faits ainsi. N'ayez pas inquiétude pour ceux qui me regardent. Avec 20 brins de soie, tressés convenablement, on étranglerait un géant. » Tout autre que moi, peut-être, se perdrait parmi ces fils. Pour moi, ce n'est qu'un jeu. Et mettez, s'il vous plaît, vos yeux dans mes yeux, Hannibal. Vous êtes le duc de Clare. Je vous le dis tout simplement et sans jurer sur ceci ou sur cela. Nous n'avons, ni l'un ni l'autre, rien de sacré sur quoi nous puissions jurer ou croire. Vous êtes le duc de Clare. Le seul possible, au moins, en tant que je serai, moi, la duchesse de Clare. Je vous ai choisi entre tous parce que je vous connais, parce que vous me connaissez, parce qu'il n'y a pas au monde, en dehors de vous, un homme que je méprise assez pour lui donner une apparence de droit sur moi. Me croyez-vous? Ses grands yeux étaient clos à demi et ses narines délicates enflaient leurs ailes mobiles. Un peu de rouge vint aux joues féminines du vicomte. Il y avait en lui de la colère, mais aussi de la joie. À chacun, cette femme savait parler la langue précise de sa conscience. Le vicomte croyait autant qu'un homme comme lui peut croire à une femme comme Marguerite. Elle s'éloigna de lui et fit bouffer d'un mouvement gracieux les plis argentés de la gaze qui l'enveloppait, comme une brume toute remplie de pâles et mystérieuses étincelles. « Vous êtes plus jeune qu'elle, murmura Hannibal, en un élan de sincère admiration. « Et plus belle, dit orgueilleusement Marguerite. « Et plus belle, répéta Hannibal, c'est vrai, c'est miraculeusement vrai. » Marguerite mit son masque. « Corbac, s'écria le vicomte en frappant ses mains l'une contre l'autre, « il y a sorcellerie, c'est elle-même, des pieds à la tête. « Mais la voix, s'interrompit-il. Une voix douce et grave, mais musicale comme un chant, tomba de ses lèvres que le masque cachait désormais. Elle dit, « Ah, mon cousin, mon pauvre bon père, vous a cherché bien longtemps. » Hannibal tressaillit et regarda autour de lui. « Est-ce vous qui avez parlé, madame ? » demanda-t-il confondu. « Oui, répliqua Marguerite avec un rire victorieux. « Oui, j'ai étudié mon rôle à fond. » Mais, fit Hannibal, ce sont les propres paroles qu'elle disait à monsieur Coeur au moment où je passais derrière eux pendant le quadrille. « Ses propres paroles, répéta Marguerite, je n'y ai rien changé. Vous n'étiez pas là, vous étiez avec le notaire. Je suis partout, quand je veux. » Elle jeta un dernier regard à la glace. « Alors, dit-elle, vous êtes content de moi, monsieur le duc? Je vais subir tout à l'heure une épreuve bien autrement décisive. Je vais aller chercher des nouvelles de mon excellent tuteur. N'est-ce pas le devoir d'une pupille bien apprise ?» « Vous allez affronter votre mari !» s'écria le vicomte, effrayé. « Qu'ai-je à craindre ?» demanda Marguerite. « Remarquez bien cela. Jusqu'au dernier moment, je ne cours aucun danger, même au cas où je serai découverte. Ne sommes-nous pas au bal masqué ? Ces espiègleries, ces imitations de costumes, ces surprises plus ou moins réussies, ne sont-elles pas un des meilleurs plaisirs du bal masqué ?»« Certes, fit Hannibal, mais au dernier moment... » La voix de Marguerite s'altéra. « Je me charge du dernier moment, » prononça-t-elle d'un accent sombre et résolu. « Avez-vous porté les pistolets chez la princesse ?»« J'ai porté les pistolets. Il n'y avait personne au petit hôtel. Personne, pas un seul domestique. Et vous avez placé les armes ?»« un couvert sur le guéridon, mais ne puis-je savoir ?»«
Rien, » l'interrompit froidement Marguerite, « vous diriez que je suis folle. Quand tout sera fait, vous comprendrez, et vous admirerez, je vous en donne ma parole. Nous avons fini ici, sortons. »
Hannibal se dirigeait vers la porte du boudoir. Marguerite l'arrêta. « Pas par là, dit-elle, par là, c'est le volcan qui est entré, c'est le volcan qui doit sortir par là. Le nuage a une autre issue. »
Elle rentra dans sa chambre à coucher, poursuivant d'un ton enjoué. « Il paraît qu'on s'aimait ici autrefois. Ces bons vieux ducs de Clère et leur duchesse étaient fort bien ensemble. Dans son alcôve, il y a une issue sentimentale qui mène au corridor conduisant aux appartements de l'autrelle. Cela servait au temps du vieux Roland de Clère, qui venait voir ainsi, discrètement, dame Raymonde Dorothée de Chevreuse-Lorraine, son épouse. Passez !»
Ils étaient dans le corridor. Marguerite ferma la porte à double tour et en présenta la clé à Hannibal.
« Pourquoi faire ?» demanda ce dernier.
Marguerite lui serra la main fortement. « Hannibal, » dit-elle d'un accent étrange, « si je faisais un faux pas cette nuit, si je glissais, on peut glisser. Si je tombais, enfin, Hannibal, me regretteriez-vous ?»«
Oh, madame !» voulut s'écrier le vicomte.
« Ne prenez pas la peine de mentir, Hannibal, » l'interrompit Marguerite. « Vous ne me regretteriez pas. Je vais vous dire pourquoi. C'est que vous n'auriez pas le temps. Chacun prend ses précautions, mon ami. Si je mourais cette nuit, vous ne seriez pas en vie demain matin. C'est moi qui vous l'affirme. »
Quoiqu'il fît sombre dans cet étroit corridor, on eût pu voir l'Italien trembler et chanceler.
« Rassurez-vous, » poursuivit Marguerite, « il y a 100 à parier contre un que je ne mourrai pas. Je me porte bien. » Et je suis gardé contre tous autres comme je me garde contre vous. C'est la vraie confiance. Vous trouviez tout à l'heure que je me fiais à vous trop abondamment. Je vais aller beaucoup plus loin. Je vais mettre le sort entier de ma partie entre vos mains. Approchez-vous, je vais parler bas. Ces vieux murs pourraient avoir des oreilles. Elle mit ses lèvres jusque sur les brillants cheveux du vicomte qui fit un geste d'étonnement.
« Il le faut, reprit-elle, il le faut absolument. Madame la comtesse du Brahut de Clère ne peut abandonner ainsi sa fête. Elle doit se montrer de temps en temps dans ses propres salons, et ses chambrières qui l'ont vue rentrer chez elle doivent la voir ressortir. En connaissez-vous une qui ait ma taille, ma tournure ?»
Hannibal réfléchissait.
« Pas trop, cher, poursuivit Marguerite. « Une grosse somme donnerait des soupçons, 15 ou 20 louis, c'est le prix d'une plaisanterie. Vous la ferez entrer par ce corridor, vous lui mettrez mon costume de volcan sur le dos, vous la ferez passer devant mes femmes de chambre, bien ostensiblement, et vous ne la quitterez pas d'une semaine, entendez-vous, jusqu'au moment où j'aurai besoin de vous. Alors son rôle sera fini. Est-ce entendu ?»«
C'est entendu, » répondit le vicomte, qui descendit l'escalier d'un air soucieux.
Au lieu de passer la porte des salons, il prit le vestibule, mit son manteau et sortit. Marguerite, elle, de son pas léger et tranquille, traversa toute la longueur du corridor et gagna l'aile opposée où étaient les appartements du comte. On ne peut pas dire qu'elle fût pensive, ses réflexions étaient faites. Elle marchait dans cette route tortueuse dont elle avait marqué d'avance tous les coudes et tous les retours. Dans l'antichambre du malade, un vieux valet dormait à demi.
« Comment va-t-il, bon Valentin ?» demanda Marguerite en entrant.
« Ah, madame la princesse !» répondit le valet. « Comme on reconnaît bien votre Altesse malgré le masque. Monsieur le comte est avec son médecin et une dame que je ne connais pas. Il va être bien content de vous voir. »
Marguerite hésita et fut sur le point de se retirer. Mais après tout, c'était une épreuve. Et quelle épreuve plus décisive pouvait-on choisir? Marguerite savait le nom de la dame qui était avec le docteur Lenoir. Elle allait affronter la présence de Rose de Malvois, l'amie de pension de Nita. Elle allait défier le regard de Rose de Malvois, son instinctive, sa mortelle ennemie. Elle entra, et dès le seuil,
« Bon ami, au risque de vous déranger, je suis venu. On m'a dit que vous vous trouviez beaucoup mieux. »
« Nita !» s'écria une femme en domino noir qui était debout au chevet du lit où le comte se tenait sur son séant.
« Que je suis contente de te voir !»« Ah, Rose, fit la comtesse qui s'arrêta, comme frappée de surprise, ton frère vient de me dire que tu étais souffrante, et j'ai ta lettre annonçant que tu ne viendrais pas. Que signifie cela? Le docteur Lenoir et le comte gardaient le silence. Évidemment, on avait tenu conseil ici. Marguerite alla droit à Rose et l'embrassa. « Je n'ôte pas mon masque, dit-elle, il est pris dans mes cheveux et je crois qu'il faudra me tondre pour me l'enlever. »« Tu as donc vu mon frère ?» demanda Rose de mal voix. « Mais oui, répondit la fausse princesse d'Epstein, qui s'approcha du malade et lui donna son front à baiser. « Je le quitte. »« Et sait-il ce qui se passe ici ?»« Ici ?» répéta la princesse d'un ton innocent. « Il se passe quelque chose ?» Mais cet Italien qu'on promène, poursuivit mademoiselle de Malvois avec colère, ce prince Policini, tu n'as pas entendu que tout le monde l'appelle déjà le duc de Clare? Ma foi non, répondit la prétendue Nita, j'ai causé avec Roland. Cher enfant, murmura le comte, nous veillons pour vous. Bon, pensa Marguerite, mon ami est franchement contre moi, ayez donc des remords. « Vous avez été plus heureuse que nous, princesse, » dit en ce moment le docteur Lenoir. « Nous avons essayé de parler à monsieur de Malvois, mais madame la comtesse n'a cessé de l'accaparer. »« C'est vrai, » dit Marguerite, « que pouvait-il donc avoir ensemble ?»« Bon ami, vous avez bien meilleur visage. »« Voulez-vous me permettre de vous demander, » reprit le docteur, « si c'était vous qui étiez tout à l'heure dans le billard ici, au-dessous ?» « Et si tu étais avec monsieur Roland ?» ajouta Rose. « Nous avons été ici et là, » répliqua Marguerite ingénument. « Je pense bien que nous sommes entrés dans le billard. »« Et l'on vous a laissé passer ?» interrogea le comte. « Ah non !» fit la fausse Nita, comme si un souvenir subit l'eût frappé. « Ah, je me le rappelle maintenant. Ce grand dadais de monsieur Constant, déguisé en maître de cérémonie, nous a barré le passage en marmottant « Madame la comtesse, je vous prie de l'excuser » ou quelque chose comme cela. « Alors, s'écria Rose, qui est-ce qu'elle cache là-dedans ?» Le docteur se leva. « Princesse, dit-il, grâce à vous, j'espère que nous allons joindre monsieur de Malvois à la fin. » Marguerite eut le rire argentin qui rendait Nita si jolie. « Est-ce bien pressé ?» dit-elle. « Pauvre cher, » murmura Rose à son oreille, « si tu savais ce qui se passe. »« Ah, rien ne menace Roland, mon cousin, j'espère !» s'écria Marguerite en reculant d'un pas et avec un geste qui était un chef-d'œuvre. On ne lui répondit point. « Écoutez, » dit-elle, « je suis toute drôle cette nuit et quelque chose me serre le cœur. » Je ne crois pas au pressentiment, au moins. J'aurais dû vous le dire tout de suite, mais je ne sais à quoi je songe. J'avais oublié. Ah, monsieur de Malvois est sorti. Sorti ? Répétèrent les trois assistants d'une seule voix. Il est retourné chez lui pour les papiers qu'on lui a enlevés. Oui, c'est cela. Madame la comtesse lui a donné des indications. Fausses, l'interrompit Rose, dont la voix tremblait de colère. Elle a voulu l'éloigner. Elle a réussi. « Êtes-vous sûr qu'il est à son étude ?» demanda monsieur Lenoir, qui prit son chapeau sur un siège. « Oui, et puis voyons que je me souviens, il a parlé de la rue de la Sorbonne. »« Ah, l'atelier de cœur d'acier !» s'écria Rose. « Ou la maison Jaffray, fit le comte, je donnerais 500 louis pour pouvoir sortir. » Le docteur était déjà à la porte. Rose s'élança sur ses pas. « Ah, je vais avec vous, docteur, » dit-elle. « Qu'ont-ils donc ?» demanda Nita quand ils furent partis. « Ah, bon ami, je vous quitte aussi. J'ai promis la prochaine valse à mon cousin Roland, mais je reviendrai. Ils me font peur, soyez-vous. »« Soyez tranquille, ma fille, » dit le malade en lui baisant les mains. « Nous veillons autour de vous. » Elle s'enfuit. Comme elle descendait le grand escalier, elle entendit le roulement d'une voiture qui allait s'éloignant. « Double victoire, » pensa-t-elle, « l'épreuve est faite et les voilà partis. Oh, j'ai pour le moins une grandeur devant moi. Or, dans une heure, tout sera dit. »